une production du Studio SF.
Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. Je suis PH Quentin, avec moi, Doom Plante. Avec la nouvelle année qui commence, vous avez sûrement un projet de podcast, parce que tout le monde a un projet de podcast, mais vous pensez que c'est peut-être trop compliqué puis vous voulez pas vous embarquer dans la technique. Ben, le Studio SF, on offre nos services de location, ça vient avec tout le matériel, ça vient avec l'espace, ça vient avec la technique, les techniciens. On va avoir très bientôt, imminemment, plusieurs espaces avec plusieurs ambiances différentes. Fait qu'allez sur le studiosf.ca pour voir, avoir plus d'informations et nous écrire, évidemment, pour qu'on réponde à vos questions. Cette semaine,
on fait, c'est la fin de l'année. Qui dit fin d'année fait revue de l'année, fait retour sur cette année qu'on vient de vivre. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le Best of 2021. Fait que PH puis moi, on a tous les deux choisi des entrevues, en fait des podcasts qu'on a faites qui nous ont le plus marqué, qu'on a le plus apprécié. Différents styles de podcasts. On a choisi trois chacun. On a fait des mentions honorables à la fin. Puis on va aller voir aussi des extraits de bons moments de ces podcasts-là. Alors, si vous n'avez pas tout écouté ou si vous avez tout écouté et vous voulez revivre des moments forts de cette année au Centre Podcast, alors ce podcast est pour vous. Puis on jase, on commente, on dit nos impressions, on dit comment qu'on se sent en cette fin d'année. Alors, c'était toujours un plaisir de faire des petits podcasts juste en tête à tête.
Ouais.
Moi puis mon beau PH.
On va aller remercier nos commanditaires. Puis après ça, on vous laisse au Best of.
That's it.
Sous le beau, c'est
sur le long chemin,
tout blanc de neige blanche, enfin, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main.
Hey, vive le vent! As-tu entendu la version de Ginette Renault de Vive le vent?
Non.
C'est incroyable.
J'imagine c'est...
C'est genre orchestral un peu, mais c'est vraiment genre, c'est vraiment bien, on l'écoute-tu?
Là, on n'est pas encore moins de filtre. Là, on est straight up. On met straight up Ginette Renault. Vous irez écouter ça. Hey, on est dans notre best of. 2022 tire à sa fin ou est déjà terminé. Tout dépendant quand on sort le podcast. Sûrement, ça reste à une semaine on, une semaine off. Puis là, on est en train, comme à chaque année, de faire notre rétrospective de l'année qui vient de passer. Année qui a débuté avec un podcast où est-ce qu'on annonçait le nouveau podcast,
ouais,
production originale, oui. Sexe oral,
studio. On a kické off l'année avec ça. Puis c'est ça fait un an là, que Sexe oral existe puis que ce projet-là a vu le jour.
Mm-hmm.
Puis c'est genre devenu un des plus gros podcasts au Québec.
C'est là, devenu avec, un effet...
Avec une fanbase incroyable. Ouais. Les filles font des shows live, ça fait la file pour aller les voir. Puis,
c'est sold out en une heure.
Ouais, c'est vraiment un phénomène incroyable ce podcast-là, mais c'est vraiment bon, les filles sont incroyables.
Ouais, quand on a mis le podcast, quand on a lancé l'idée comme ça, ouais. Là, tu sais, avec Lisande puis Joanie, puis moi je savais que ça allait être bon, mais je savais pas que les filles allaient être aussi bonnes que ça, rapidement.
Ouais.
Puis pour vrai, ils ont fait un job incroyable. Ouais. On peut retourner, parce que là on va mettre des extraits dans le fond, entre des petites interventions de Doom puis moi, puis on peut retourner, Nicole, prends ça en note. Nicole, t'es avec nous autres aujourd'hui?
Yes, là.
Oh yeah!
Fait qu'on va aller voir un extrait où est-ce qu'on parle un peu du projet et de la naissance du projet, dans le fond, avec les filles. Début 2021. Premier podcast 2021. Mm. Extrait.
Un point qui semble revenir dans, mettons, quand on parle de sexualité, c'est le laisser aller. Mm. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui retient vraiment beaucoup de monde, là. Tu sais... mettons juste de ma propre expérience, si je parle d'éjaculation féminine, mettons, là, tu sais, de ma propre expérience, les fois où est-ce que ça l'a marché, c'était quand la fille elle se laissait juste aller, parce que la minute qu'elle avait une petite retenue, ça marchait pas, tu sais, puis comme c'est quand même des bonnes statistiques, là, tu sais, de filles qui sont capables d'éjaculer, en fait. Là. Tu sais, je sais pas si c'est 100% ou si il y a... Moi, j'avais entendu genre 80%.
Ben, toutes les filles peuvent éjaculer. C'est toutes les filles peuvent éjaculer. On n'est pas toutes femmes fontaines. Ça, c'est une rumeur, femmes fontaines. Fait qu'on peut tout éjaculer. C'est quelque chose que... Est-ce que tu veux le développer ou pas? T'es pas obligé. Tu peux avoir un orgasme. C'est ça. Ça se peut qu'il y a des femmes qui sont capables d'avoir des orgasmes sans éjaculer, puis il y en a d'autres qui vont éjaculer sans avoir d'orgasme. Moi, je trouve ça plate, t'sais, rendu là, allez, oh, je m'en ai tout de mon lit pour rien.
Fait que, mais ça, ça arrive.
Ouais,
c'est ça comme, arrive il s'est passé ça, mais ça n'a pas été l'orgasme le plus fort de ma vie, même si ça a de l'air.
Ouais, parce que c'est pas lié.
Ça n'a jamais été un orgasme dans mon cas, là. Toi, c'est à chaque fois.
Non, c'est que moi, c'est que j'ai réussi ça. Je travaille mon corps beaucoup. Fait que mon but, c'est d'essayer d'avoir mon orgasme en même temps d'éjaculer.
Ouais, c'est ça.
T'es Jimmy.
Fait que là, mon orgasme est le plus puissant. Jesus. Mais c'est de la pratique, là. Pour vrai, je...
C'est, il y en a eu des brassées de drossales.
Ah oui, ben, j'ai la couverte de Junoun, ma couverte Splash Dry, mais sinon...
C'est un produit qui est en vente chez
Splash Dry.
La couverte Splash Dry.
Tu peux absorber jusqu'à 4 litres de liquide corporel.
4 litres?
Ouais. Ouais, tu peux jouer longtemps.
Tu as un code promo là-dessus?
Ouais.
Juste au cas où.
Ben oui, il y en a un.
C'est malade, c'est fascinant. Moi, ça... I guess que je suis coupable de jamais m'être assez informé par rapport à la sexualité et toutes les diverses pratiques. Là, tu sais, je veux dire, je commence là, dans ma
vie. Mais tu vas nous écouter.
Ben non, mais c'est sûr et certain. Là, tu sais, c'est sûr et certain. Moi, c'était pas une priorité. Là, j'imagine que ça aurait tout à fait dû en être une. Mais,
ouais. Ouais. Je pense que c'est peut-être plus un réflexe pour les filles de vouloir... Ben, de devoir s'informer parce que c'est peut-être plus dur pour nous de connecter à notre corps, tandis que t'sais, quelqu'un qui est capable de venir puis que c'est instinctif puis que bon, tout est beau, c'est sûr que t'as peut-être moins le réflexe de vouloir t'informer. Là, fait que c'est juste.
Puis tu sais, si le gars aussi, il sait pas, tu sais, il y a beaucoup de couples qu'il sait pas là, que sa blonde, elle a pas le maximum de plaisir. Fait que lui, il pense que sa blonde...
Peut-être même qu'elle, elle sait pas non plus qu'elle a pas le maximum de plaisir.
Elle a dit juste, mais moi, le sexe, c'est pas important ou j'aime pas tant ça, puis ça reste de même.
Exact.
Puis, mais ça, c'est une question que j'avais, tu sais, justement. Tu sais, je pense qu'il y en a plein de couples où est-ce que ça fait ça, puis ben, avec le temps, mettons, t'as peut-être de moins en moins une relation sexuelle. C'est comme ça devient ça la norme, ça devient un peu dans le non-dit ou quasiment tabou de genre d'en parler, tu sais, puis là, mettons, si un des deux veut aborder ce sujet-là de « Hey, t'sais, peut-être qu'on devrait t'sais, travailler ça. » Puis là, je pense que ça peut facilement devenir une source de conflit, mettons. Puis tu sais, je pense que, mettons, ça, une relation avec une personne, soit ça peut être de plus en plus on expérimente des affaires ou justement de plus en plus
on
se campe dans ce qu'on connaît, on veut pas trop explorer. Puis tu sais, mettons, si après 4 ans, t'es avec quelqu'un, t'amènes une nouvelle affaire... Où tu dis, ah, j'aimerais ça, peut-être ça plus de même, ou j'aimerais peut-être ça qu'on fasse plus ça. Mais là, c'est quoi depuis genre, ça fait 3 ans que t'es insatisfait? Tu sais, je pense que ça
peut facilement... Le plus longtemps t'en parles pas, le plus gros l'éléphant dans la pièce devient. Là,
ouais, puis le plus dur vient d'essayer de nouvelles affaires, je pense. Là,
Comment l'amener?
Toi, mettons, quel conseil tu donnerais à quelqu'un dans cette situation-là, mettons? Là?
Ben Lisanne, l'autre fois, elle avait donné un super bon conseil. T'avais dit, tu sais, considérant les fantasmes et tout, là, de demander à la personne, c'est quoi, toi? Qu'est-ce que t'aimerais? Avant de dire, hey, moi, j'aimerais ça, de demander à la personne. Puis après ça, ben, c'est sûr qu'il va te demander à toi.
J'ai l'impression que ça arrive un peu. Tu sais, mettons qu'on reprend l'exemple d'un couple, que ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble. Puis de se dire, OK, quelles sont les démarches que je peux faire pour raviver notre sexualité? Mm-hmm. Tu sais, j'ai l'impression que ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe d'arriver à l'autre, faire comme, hey, Jack, on joue à un jeu.
J'ai acheté une double sextoy.
Non, mais même, tu sais, de demander les fantasmes, c'est comme, hey, Jack, c'est quoi tes fantasmes? Puis après, je te dis le mien. Puis là, c'est comme, pourquoi tu veux me dire que c'est genre.
Je pense que comment je l'amènerais, mais là, en même temps, prenez ça pas pour du cash nécessairement, j'ai jamais été très longtemps en couple. Je pense que j'amènerais, mettons là que c'est après 4 ans, t'as jamais utilisé de la cire de chandelle, genre. Mm-hmm. Ben, je pense que je ferais quelque chose pour la personne. Tu sais, amener quelque chose de nouveau, mais pour cette personne-là. Ouais. Fait que c'est pas comme si t'avais un besoin qui manquait, tu sais. C'est genre parce que tu veux rajouter quelque chose qui peut plaire à l'autre. Mm-hmm. Fait que je sais pas.
C'est la meilleure façon d'inclure les produits érotiques ou whatever, c'est en lui faisant vivre à lui une expérience. Parce que souvent, les filles disent « Ah, mon chum, il veut pas que j'achète des vibrateurs, il veut pas que j'achète ci, je suis parfait. » À ce moment-là, on va pas y aller avec toi, on va y aller avec lui avant. Mm-hmm. Fait que comme tu dis, on lui fait découvrir à lui que c'est des produits, ça peut être le fun. Puis ça va pas te remplacer toi. C'est ça la peur tout le temps. Ils ont peur qu'un vibrateur, ça va le remplacer lui.
Ah ouais, OK.
Fait que on va lui faire découvrir à lui, on va lui faire une expérience. Puis c'est là, il y a des scénarios, tu sais, que je propose tout le temps. Puis après ça, ben là, il va triper. Puis après ça, on va pouvoir y aller, tu sais, tranquillement.
On est de retour. On est de retour. Puis là...
De retour, c'était... Sexara.
C'était Sexara.
C'est drôle parce qu'à cette époque-là, on connaissait pas Joanie. Genre, puis Lisanne, presque pas. Genre, ouais, c'était comme. Peu. Maintenant, son genre inséparable, son genre ouais, best friend. Puis là, il y a Marie-Ève maintenant qui est
ouais,
dans l'équipe.
Ouais.
Mais genre, c'était drôle que genre.
Ils se connaissaient pas tant que ça à ce moment-là.
Tu sais, maintenant là, que Joanie, mettons, a une fixation sur les prostates, c'est comme un running gag. C'est, comme, c'est comme tout le monde le sait, mettons.
Ouais.
Mais genre, je réécoutais le podcast un matin en me préparant, puis c'était comme. Elle nous expliquait là, le plaisir prostatique. Puis ça, ouais. C'était comme la première fois qu'on entendait parler. J'ai l'impression que j'entends le juste parler
premier
de
contact
depuis,
avec ça,
depuis
ouais,
un an.
Ouais.
Fait que, ouais.
Très cool. Fait que là, on va donner dans le fond de nos coups de cœur de l'année 2021.
Ouais.
Je peux commencer ou tu peux commencer si tu veux.
Vas-y.
Parfait. Dans le fond, moi, initialement, on avait reçu, tu sais, suite au podcast avec Joanie et Lisandre, on a voulu approfondir nos discussions autour de la sexualité, autour des relations. Puis les filles sur Sexe Oral avaient reçu Au lit avec Anne-Marie, que moi, j'avais écouté le podcast, j'avais trouvé ça extraordinaire. Fait que je me suis dit, on va inviter Anne-Marie pour venir nous parler de ça, pour venir nous parler de relations, de sexualité. Puis comme de fait, ça a été vraiment... Un très, très chouette podcast.
Oui, il y a plein d'affaires que justement, tu sais, que j'ai entendu sur ce podcast-là, c'est la première fois que j'entendais. Tu sais, les scripts sexuels, l'écart de jouissance entre les hommes, les femmes. Mm-hmm. Encore une fois, j'ai écouté un matin, puis Anne-Marie est vraiment... tu sais, elle est full le fun d'écouter, mais aussi très documentée.
Ouais.
Tu sais, elle arrive avec ses stats qu'elle connaissait par cœur, puis justement, puis c'était justement la stat, là, c'était comme 95% des mettons, des hommes... ont un orgasme à chaque relation sexuelle versus 65% chez les femmes. Puis elle a plein d'autres stats qui montraient que crime, okay, le plaisir sexuel, il est pas égal d'un sexe à l'autre. Là, comme il y a un travail à faire, un travail d'éducation, mais toi, tu as un travail de plaisir de l'autre, là, peut-être à.
Ouais, ben 100%.
À travailler, là, mettons. Clairement, il faut stepper up.
Tout à fait. Puis ce podcast-là, c'est aussi dans notre top 3 des podcasts les plus écoutés en audio. Fait clairement, il a résonné chez nos auditeurs. Là. Souvent, ce qui se passe en audio, c'est que les gens les réécoutent ou les font écouter à des amis, mettons, les podcasts qui sont sur des sujets de même pertinents comme ça. Puis ça, je peux comprendre, mettons, une blonde d'envoyer ça à son chum, faire comme elle. Check donc ça, ce petit podcast-là.
Mais il y a de quoi avec la sexualité que, tu sais, je veux dire, veux pas, c'est encore tabou, même si on est en 2021, 2022, mettons, tu sais, puis c'est encore comme des peu discuté. Puis, tu sais, mettons, d'avoir un espace parce que, genre, c'est discuté librement, mettons, puis de manière documentée, puis de manière, tu sais, vraiment sans tabou, pendant 2 heures de temps, pour quelqu'un qui se pose des questions, c'est quand même nice. Ça existe. Puis c'est pour ça que Sexe Oral aussi, c'est aussi...
Ça pogne autant que ça.
Ça pogne autant que ça, puis que c'est aussi nice que ça existe. C'est comme c'est le fun d'entendre du monde parler pour vrai de ça sans être genre... ou bien sans genre... pas vouloir dire certaines affaires parce que c'est tabou, tu sais. Fait que, ouais, Anne-Marie, puis tu sais, autant le podcast avec les filles, le podcast avec Anne-Marie, puis le fait que Sexe Oral existe, c'est comme... Crime, mais il y a plein d'affaires... plein d'affaires que je savais pas, moi,
ben oui,
autour de
la
sexualité, puis plein d'affaires qui est comme crime, ok, ouais, je peux apprendre, j'ai encore à apprendre, j'ai encore des cours à manger.
Ouais, ouais. je me croyais parfait.
Je me croyais là, le dieu. Là.
Ouais, vraiment. On va aller écouter un extrait du podcast avec Anne-Marie, dans le fond, puis enjoy.
Puis ça, là, ça arrive là, dans la vie, même, pensez à une rupture, ok?
Ouais.
Tu laisses ton partenaire, puis tu sais que si tu reviens demain matin, la personne va être là.
Ouais.
Le jour où cette personne-là, elle ne sera plus jamais accessible puis qu'elle passe à d'autres choses,
tu
décris,
là, que t'as de la peine.
Je m'ennuie. Puis...
Ouais, parce que tu n'as plus le choix. Ce n'est plus ton choix.
Ouais.
Mm-hmm. Tu n'as plus droit de veto sur ce qui se passe. Fait que je pense que ça aussi, ça vient rajouter un peu des... Là, tu te remets en question. T'as-tu fait le bon choix? Est-ce que je suis en train de regretter? Est-ce que j'aurais-tu dû? J'aurais-tu pas dû? C'est comme, tu rentres dans ces questionnements-là qui te font vivre des émotions en dedans. Puis on a tellement peur du regret, les humains, là, que c'est une émotion qui est vraiment désagréable, le regret. Puis moi, je vais toujours dans ce sens-là avec mes clientes. Je suis comme, OK, qu'est-ce que tu regretterais? Puis fais pas ce que tu penses que tu regretterais. C'est comme l'émotion ou la sensation la plus comme bah, du regret. T'es impuissant, impuissante quand tu vis du regret, tu sais.
Je suis d'accord, mais des fois, j'ai l'impression que...
J'aime ça.
que, mettons, tu sais, c'est vraiment voir le verre à moitié vide, là. Mais j'ai l'impression que, tu sais, si je reste avec ma partenaire, je vais pas vivre telle expérience, puis je vais regretter. Mais si je suis plus avec ma partenaire, je vais regretter de ne plus être avec, tu comprends?
Ouais.
Des fois c'est comme si ton cerveau build up un lose-lose situation, tu sais, que peu importe ce que je fais, je vais regretter, tu sais.
Fait que c'est là que ta petite liste avec tes besoins et tes valeurs rentre en ligne de compte, puis que tu fais comme, faut que je m'écoute. Tu sais, dans la vie, il faut que tu t'alignes avec toi-même, là. Pas avec les autres, pas avec ce que les autres pensent. Tu sais, je pense que c'est là que tu prends ton recul, puis que tu fais vraiment une introspection. C'est important à faire, ces introspections. Tu sais, peu importe que ce soit en relation, dans ta profession, dans ta vie familiale, peu importe, c'est tellement important de faire des introspections. Puis, oui, ça se peut que tu aies un petit sentiment de regret, mais le sentiment de soulagement va être peut-être encore plus grand, tu sais.
Ouais.
Fait qu'à un moment donné, c'est d'être capable de gérer ces émotions-là, je pense.
Mais tout ça pour dire, tu sais, mettons, là, aujourd'hui, à 30 ans, tu sais, chaque expérience que tu vis, chaque relation aussi, t'apprends, tu sais, puis t'apprends sur toi, puis t'apprends sur aussi comment dealer avec une autre personne, puis tout ça, puis je suis meilleur que j'étais, mais je trouve ça weird que des fois, l'humain soit comme attiré vers quelque chose qui est pas sain, tu sais, puis qui est destructeur pour lui, versus quelque chose
Pourquoi tu penses? Non, mais je sais pas, je pose la question je posais la question
t'sais,
honnêtement.
Combien, tu sais, mettons, tout le monde autour de... C'est pas tous les couples autour de nous qu'on voit, puis que, tu sais, c'est pas tout le temps beau, là. Il y a des gens qui restent ensemble, puis...
C'est des choix.
Ouais.
C'est des choix, ça en vient aux choix que tu fais pour toi-même, tu sais. Je pense qu'on se compare beaucoup aussi aux autres. Puis les autres ont donc l'air de... Mm-hmm. Tout le monde fait du sexe comme 4 fois par jour, là, clairement. Là.
Of course.
Toi, t'en fais 4 fois par année, tu sais, mais tout le monde en fait 4 fois par jour. Fait que là, t'es-tu heureux avec ton 4 fois par année?
Mm.
Tu sais? Mm. Fait que je pense qu'on est dans une société où on se compare énormément... Que nos choix deviennent plus tellement nos choix. On est vraiment teinté, influencé par notre façon de prendre des décisions, etc. Fait que, tu sais, je pense que c'est de faire attention à tout ça.
C'était Anne-Marie, au lit avec Anne-Marie. Petit extrait qu'on vient d'entendre.
Yes.
C'était vraiment un beau podcast. Moi, j'ai quelques coups de cœur aussi cette année. Il n'y a pas d'ordre en particulier. Là. Le premier que j'avais sur ma liste, c'était Sophie Brochu.
Ah ouais.
Sophie Brochu, qui est une invitée hors du commun. Là,
extraordinaire.
À un niveau qui existe, qui est inégalé, en fait. Là, en tant que personne de charisme, de prestance, d'aplomb.
De connaissance.
De connaissance. Puis, tu sais... N'importe qui l'a vu en notre vue, soit ici ou à Tout le monde en parle. Tu sais, je pense qu'on avait parlé avec ma mère qu'on avait reçue, puis de là où je l'ai vu à Tout le monde en parle, cette femme-là, c'est comme ça, c'est incroyable, là, je veux dire, la force qu'elle a, là, tu sais. Puis en même temps, encore une fois, je réécoutais des petits bouts, tu sais, de ce podcast-là ce matin, puis elle était tellement en mode chill.
Ah, elle était relax, elle s'était aussi barré le dos, là, fait qu'elle était comme... automatiquement assis laid back de même dans sa chaise parce qu'elle avait le dos décalcé, fait qu'elle pouvait pas se mettre comme ça. Genre, fallait qu'elle reste comme un peu dépliée. Là.
Ok, elle avait le dos barré.
Oui, elle est arrivée en nous disant ça. Elle dit, eh ben là, je vais me placer de même, j'ai l'air vraiment détendu, mais comme, fait qu'elle pouvait pas genre se plier à 90 degrés, fallait qu'elle soit genre évachée un petit peu de même. Là.
Ça, c'est vraiment qu'elle était pas là. J'allais être bien relax. Laid back. Là. En gossant avec la chaise à côté.
Oh non, ben, t'es laid back quand même, t'es pas nerveux.
Puis elle était vraiment, tu sais. C'est drôle, je réécoutais parce qu'elle nous parlait puis elle disait, tu sais, PH, tu sais, Dom. Puis genre, elle était vraiment, là, tu sais, elle avait appris nos noms. Puis genre, tu sais, elle était vraiment, genre, full humain, là, comme conversation. Puis tu sais, toute la première partie où est-ce qu'elle nous expliquait son parcours, puis que, tu sais, qu'elle a fait le conservatoire de théâtre, puis qu'elle avait lâché ça, puis que. Comment qu'elle a découvert que. L'économie de l'énergie, c'est quelque chose d'intéressant. Que par hasard, le premier cours d'université là-dessus, puis ça a comme fait genre, oh my god. Puis l'anecdote est allée en Gaspésie, genre expliquer aux pêcheurs qu'ils peuvent, ouais. qu'ils peuvent pas pêcher les poissons, puis qu'ils font comme genre ça fait pas de sens que tu nous dis ouais. qu'elle elle, elle est là, puis elle a 19 ans, puis il faut que, comme, qu'elle explique ça à genre des, ouais. des gars que ça fait 40 ans que c'est ça leur métier, tu sais. Puis comment qu'elle est devenue, genre justement, cette femme-là qui est une des femmes les plus importantes au Québec, là, dans ouais. le fond, là, ouais. tu sais.
Définitivement.
C'est fou, là, tu sais. Puis. Ça prend là, des nerfs d'acier. Faire ce job-là, le PDG de Hydro-Québec, là, prend des nerfs d'acier.
Ah oh, oui, c'est définitivement. Elle a l'air vraiment d'une personne ultra cartésienne en bonne solution. T'sais. Fait que genre, ouais. je suis pas sûr qu'elle doit. Je suis pas sûr que ça, qu'il y a pas grand chose. En fait, il n'y a pas grand chose qui doit la stresser, dans le fond. Là.
Non. Non, t'sais. Mais tu sais, quand faut que tu ailles convaincre la ville de New York oh, de, ouais. comme,
mais c'est pour ça que je
d'acheter
dis, là,
ton électricité, c'est comme faut que tu arrives là. Prêt, là. Faut que tu arrives là.
Puis en sachant de quoi tu parles.
En là, sachant de quoi ouais. tu parles, puis faut que tu arrives là. C'est pas le temps de te laisser intimider, là, surtout, genre, comment elle expliquait ouais, ouais. comme la dynamique aux États-Unis, ouais. là, comme ça joue dur, là. C'est ouais. comme, genre, elle, man, c'est pas. Ça se laissera pas intimider.
Là, non, 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 non. Puis c'est ça qu'elle a fait aussi, finalement. Ouais. Fait qu'elle, Hydro-Québec ont eu ce contrat-là, là, tu sais, ouais. après qu'elle soit venue sur le podcast. Ouais. Puis une autre affaire que ça a fait, ce podcast-là aussi, c'est que ça l'a ouvert la porte. Comme, tu sais, Éric Girard, le ministre ouais. des Finances, justement, il nous a écrit parce que son équipe nous a écrit, en fait, après avoir vu ce podcast-là, c'est comme, OK, non, c'était une bonne entrevue. Ça permet de voir la personne derrière le titre. Puis ça, ouais. tu sais, ça, souvent, c'est quelque chose qu'on peut pas voir en ouais. tant que.
Pour des personnalités de même, c'est intéressant, là, les ouais. humaniser un peu plus.
Ouais, mais. Exact, c'est ça. C'est ça. Ouais. Des gens qui gèrent, dans le fond, tu sais, des gestionnaires, mais les gestionnaires, il faut les connaître, là, tu sais. Ouais. C'est des personnes aussi avant d'être des gestionnaires, c'est des humains, là, tu sais.
Tu sais, dans les noms que tu dis, genre, mettons, il y a 3 ans, j'aurais pas pensé qu'on recevrait mm-hmm. telle personne sur notre podcast, mettons. Sophie Brochu, la PDG d'Hydro-Québec, puis mettons Éric Girard, ministre des Finances, c'est comme.
J'aurais pas pensé
qu'on se rendrait là, mettons. Oh, là, oh, c'est quand même nice, là, tu sais.
C'est cool,
ouais. Fait que.
D'avoir des bonnes conversations. Moi, j'irais écouter l'extrait où est-ce qu'elle nous parle de justement son parcours, là, comment qu'elle
ouais.
s'est rendue là. Là.
Ouais. Ouais, ouais, on va écouter ça.
Extrait.
Extrait.
Écoute, c'est une longue histoire, mais après ça, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Mais là, t'as comme 18 ans, qu'est-ce que je veux faire? Puis d'ailleurs, c'est ça le système scolaire. T'sais. On embarque sur un tapis roulant, puis on est supposé savoir en secondaire 3, t'as pas le droit de prendre une bière, t'as pas le droit de construire un auto, t'as pas le droit d'entrer dans un bar, mais il faut que tu décides ce que tu vas faire dans la vie d'ici. Ça n'a aucun sens.
Ouais. T'as un choix à faire entre sciences nature ou sciences humaines en secondaire 3, quand il y a bien des affaires que t'as aucune idée. C'est quoi?
Fait que rendu là, comme je savais pas ce que je voulais faire, cher, je me suis dit. M'a essayé quelque chose de large, tu sais. Fait que j'ai pensé socio, politique, histoire, économie. Ah, économie. Correct. On va faire économie. Fait que j'ai fait économie. Mais encore là, le bac, ça a été correct. Mais, tu sais, des notes, j'avais C. Tu sais, quand j'avais C, je me disais, je suis correct, je vais finir mon bac. Puis
c'était pas la grande passion, là. C'était pas. J'ai trouvé ma vocation.
Non, 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 non. Puis en fait, plus j'avançais, moi, je me disais que j'allais être économiste dans la vie. Okay. Mais on avait des bons profs. C'est H.P. Rousseau qui a dirigé la caisse. Pierre Fortin, super économiste, qui est assez connu au Québec et puis ailleurs. C'est des bons profs, mais je vibrais pas. Puis mm-hmm. à la dernière année du bac, on a comme droit dans la dernière année à un cours optionnel. Là, tu te forces un peu, tu te gardes, il faut que je fasse un choix. Fait que là, j'ai choisi économie de l'énergie. Puis le prof qui nous enseignait, c'était un Syrien. Fait que déjà à Québec, c'était très différent. Mm-hmm. Antoine Ayoub. Puis lui est arrivé en avant de la classe. On n'était pas beaucoup parce que visiblement, l'économie de l'énergie, ça faisait pas triper grand monde. Mm-hmm. Il s'est assis. Il a allumé une gitane. Dans ce temps-là, on fumait. Gros cendrier. Puis là, il s'est mis à nous parler de l'OPEP. On était dans le temps des chocs pétroliers. Mm-hmm. C'est qui l'OPEP? Les grandes compagnies de pétrole, les Exxon, les BP, les Shell, pourquoi il avait été créé. Puis là, les pays, les rois. Après ça, il te ramenait ça en Amérique. Puis là, il parlait de la consommation de pétrole. Puis après ça, il parlait du budget des familles. Écoute, je tombe en amour. Je me disais, hey, ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Fait que c'est ça. Fait qu'on fait, on a fait l'énergie. Puis après ça, à la dernière année du bac, le prof me dit, Ottawa donne des bourses. parce qu'on était dans le groupe ressources naturelles. Bon, Ottawa donne des bourses. Fait que là, la bourse, c'était pour aller en Nouvelle-Écosse pour expliquer aux pêcheurs les quotas de pêche. Ouais, c'est le fun,
ça. Je vais
aller faire ça.
Je connais ça, moi, les quotas de pêche.
Mon chum et moi, on dit, ben écoute, ça va être le fun. On va partir avec le chien, puis on va aller vivre en Nouvelle-Écosse. Puis on s'imaginait dans une cabane sur le bord de la mer. Puis ça va être le fun, tu sais. On va aller passer l'été là. Fait qu'on part avec le chien, pas rien.
On sent que c'est pas ça qui s'en vient, là.
Fait qu'on arrive là-bas, puis je rencontre un fonctionnaire le vendredi qui m'explique ce qu'il faut que j'aille expliquer aux pêcheurs. Puis il me donne une carte avec c'est l'Est du Canada, puis des bancs de poissons là-dessus. Il m'explique que là, les bancs de poissons ont diminué, il y a moins de ressources, et donc il va falloir que les quotas de pêche soient réduits, puis là, il faut t'expliquer ça aux pêcheurs.
Okay. Qui, eux, dépendent de ça. Là.
Que eux, ils vivent de ça. Ouais.
Fait que mais c'est de la manière. C'est pas de la job agréable. C'est
ouais, comme mais j'avais pas pogné que c'était pas agréable.
Ouais, c'est ça.
Mais Ottawa donne des bourses. Fait que d'homme.
C'est lui qui t'expliquait ça. Il était bien content que c'est toi qui aille au bat après. Là.
Ben écoute, oui, puis je pense que j'étais naïve. Alors, ça se passait dans le sous-sol d'une église le dimanche soir, la première séance.
Okay.
Le dimanche soir, j'arrive avec ma carte. Je mets ça sur une espèce de lutrin dans ce temps-là. Il y avait de la musique de la guitare, là, tu sais. Je mets ça sur le lutrin de la musique de la guitare. Puis, je me souviendrai de ça toute ma vie. Fait que là, j'explique ça dans mon anglais approximatif. Mais il était correct, il le pognait, là. Mm. Puis là, c'est tous des messieurs baraqués, là. Ils sont tous... ils te regardent. D'abord, une fille du Québec qui m'expliquait qu'ils vont pêcher moins de poissons, tu sais, en partant, là, tu sais.
C'est difficile à eux autres de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ouais. Ouais.
Alors là, il y a un monsieur qui se lève, un pêcheur qui se lève, il est en arrière, puis il marche tranquillement, puis il a sa veste carottée, là, tu sais. On devrait dire carolée, mais à Québec, on dit carottée. Fait qu'il arrive avec... puis là, il prend mon stylo feuille, j'avais un gros feutre, là, pour dessiner ça.
Un marqueur, là.
Ouais. Fait que là, il s'en va au large, puis là, il fait des pointillés. Il fait une ligne pointillée. Fait qu'il me demande en anglais, il dit, est-ce que vous savez c'est quoi, jeune fille? Ça. Non. Il dit ça, c'est la ligne des eaux internationales. OK. Fait que là, il dessine deux bateaux. Un petit bateau puis un gros bateau. Puis le petit bateau, il y a un drapeau canadien dessus. Puis le gros bateau, il met un drapeau japonais. C'est facile à dessiner, hein?
Ouais.
Fait qu'il dit, c'est ça l'enjeu, mademoiselle. L'enjeu, c'est que les poissons don't fucking care de traverser la ligne. Fait que si c'est pas moi qui le pogne, c'est le gros japonais qui va s'en aller avec. Fait que je vais continuer à pêcher mon poisson. Je trouvais qu'il y avait un bon point. Mm-hmm. Fait que le lendemain matin, j'appelle à Ottawa.
Monsieur?
Dans ce temps-là, il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait pas rien, il n'y avait pas de... Fait que j'appelle à Ottawa, puis j'ai dit, expliquez-moi ça. Il dit, il a raison, mais il faut qu'on diminue. Fait, fait que là, on s'est comme rappé, parce que je n'étais pas capable d'expliquer des folies de même. Puis John, qui devait enseigner le français à Dalhousie, en tout cas, anyway, fait qu'on s'est ramené, mais là, on n'avait plus de sous. On avait brûlé les sous qu'on avait pour prendre le traversier pour y aller, pour aller plus vite, parce qu'on avait le chien. Mais quand on est reparti, disons qu'on avait juste assez pour mettre de l'essence dans l'auto. Puis il fait qu'on s'est ramené avec le chien. Là, t'arrives, il était fin juin, pas de job, pas d'appart, un chien, pas d'argent. Fait que là, je suis...
Là, il y a des décisions qui doivent être prises.
Fait que là, on a une gentille... la sœur de John est formidable. Elle nous a accueillis dans son salon avec le chien. Puis là, c'était clair qu'il fallait pas qu'on reste là longtemps. De toute façon, on pouvait pas faire ça. Alors, là, je me suis dit, tiens, j'avais vu... j'étais à l'Université de Laval, il y avait comme une espèce de tableau avec des jobs offerts. Mais là, tu sais, à fin juin, il reste comme trois feuilles, là. Mm-hmm. Fait que là, il y avait un boulot de guide touristique sur Louis-Joliette à Québec. Vous connaissez ça?
Ben oui. Bon, ouais. J'ai joué beaucoup de musique sur Louis-Joliette.
Bon, ben alors, c'est ça. J'ai dit, bon, ben, regarde, ça va être ça mon été. Je vais être guide touristique sur Louis-Joliette. Puis, fait que
Il était déguisé, les guides, moi, quand j'étais là. Est-ce que toi, t'étais déguisé?
Je me suis pas rendu là. Mais check belle affaire. On était à Saint-Romuald. Ma belle-sœur vivait à Saint-Romuald. Fait que je prends le pont. Puis là, j'étais un peu à l'avance. En fait, j'étais pas mal à l'avance. Puis je regarde à gauche, puis c'était écrit S'occupe. Puis j'avais vu ça à l'université. Puis c'est Antoine qui m'avait parlé de ça. C'était une petite société d'État qui s'appelait la Société québécoise d'initiative pétrolière. À l'époque, le gouvernement voulait savoir si le Québec avait du pétrole.
Il avait mis ça en place pour voir si on en avait.
Ouais. C'était dans les années 70 que ça avait commencé, puis on fait de l'exploration. Anyway. Alors, je dis, tiens, j'ai du temps. Je vais aller là. Je vais aller voir, d'un coup. Puis je suis arrivée là, puis je vais
aller dans un bureau que je connais personne, voir.
Puis je suis arrivée là, puis il y avait une dame qui était là, dit qu'est-ce que je peux faire pour vous. J'ai dit, j'aimerais savoir la personne qui engage le monde, tu sais. Elle dit, avez-vous un rendez-vous? J'ai dit, non, j'ai pas de rendez-vous. Puis sur le champ, le gars qui s'occupe des ressources humaines sort du bureau en question, puis il passe devant la réception. Fait qu'elle me dit, ah, Pierre, justement, ben, il y a une jeune femme. Là, il y avait un peu de temps. Je te fais une longue histoire courte. Il devait recevoir cette semaine-là un Français en stage, un Français économiste, puis il avait décidé de faire son service militaire. Je vous rappelle que c'était il y a 40 ans. Ouais. Fait que là, il n'y avait plus de stagiaire. Fait que boum, je suis rentré là. Puis c'est comme ça que j'ai fait ma carrière dans l'énergie.
Hein?
Parce que des pêcheurs ont décidé que ça n'avait pas de bon sens ce que je disais. Mm-hmm. Puis parce qu'un Français a décidé de faire son service militaire.
Yes, on est revenu. Podcast avec Sophie Brochu, incroyable. Ouais. Moi, un autre de mes coups de cœur, évidemment, c'est avec Paisible Sandrick, deux de mes bons amis, qu'à ce moment-là, on commençait à peine notre relation d'amitié comme elle est maintenant. Là, ouais. Là, elle a évolué, elle a changé, puis elle s'est approfondie. Là, mais ce qu'on a fait, dans le fond, dans ce podcast-là, c'est ce qu'on fait quand on fait des soirées avec cette gang-là. C'est que, genre, on s'assoit, puis on jase, puis on creuse dans quelqu'un, puis cette personne-là... Tu sais, tu me parlais tantôt là, de comment, mettons, dans les derniers mois, je... Tu sais, plus genre dans ma tête à un endroit qui est mieux, mettons. Puis il y a beaucoup de ça quand même, là, de soirée à me faire rentrer dedans, à essayer de comprendre pourquoi, mettons, pourquoi j'agis de telle façon, pourquoi je réagis de telle façon de ça. Puis au final, tu sors de cette soirée-là, t'es comme Chris, dans le fond. C'est vrai, asti, que ça, c'est un pattern de marde. Puis c'est vrai qu'il faut que je déconstruise ça. Puis ils ont raison, tu sais. Puis dans le podcast, on a fait un peu ça. Ouais. On a fait le tour. On a eu un genre de sneak peek de c'est quoi une discussion avec eux autres, mettons. Là.
Ils sont vraiment bons pour justement rentrer dans le vrai puis dans le...
Ah, il n'y a pas de small talk, puis... là. Il n'y a pas de small talk avec eux autres.
Ouais. C'est... Ouais. J'ai aussi réécouté un bout. Puis tu sais, comme... On s'est ouvert ce podcast-là, tout le monde, tu sais, puis on a fait vraiment comme un beau tour de table, puis tu sais, l'extrait, en tout cas, tu mettras l'extrait que tu veux, mais tu sais, moi, je repense au moment où est-ce que Sandrick s'est ouvert sur comme sa dépendance, sa désintox, c'est comme...
C'est du stock, là.
C'est du stock, puis c'est rare qu'on entend quelqu'un, tu sais, genre en parler aussi ouvertement, tu sais, puis comme comment il s'était rendu là, puis comment qui, tu sais, ça ressemblait à quoi son... Ça ressemblait à quoi sa vie avant, là, tu sais, quand il dit... C'était 6-7 bières, antidépresseurs, vivance. Si ça, il fait la liste, ça finit plus. C'est comme par jour, c'est comme OK. Là, il était mal en point. Là, puis le après, quand il parle de comme comment l'importance de se retrouver et de se connaître après ça, là, c'est comme là, maintenant qu'il n'y a plus ça, il nous expliquait, c'est comme. Le temps qu'il y a à comme découvrir, c'est comme se reconnecter sur c'est quoi qu'il aime, c'est quoi qu'il aimait quand il était petit gars, genre qu'est-ce qu'il aimait faire. Essayer de retrouver ça, essayer de découvrir des nouvelles affaires autres que la consommation, parce que t'sais, ça prend toute la place à maintenant, je pense. Là.
Ah ouais.
Fait que c'était vraiment beau, c'était vraiment touchant. Fait que great.
C'est vraiment. Puis Paisy est bonne aussi pour pas laisser passer de la bullshit, mettons. Là. Quand elle sent que quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas vraiment ce que la personne pense, elle va comme le caler tout de suite. Puis ensemble, cette dynamique-là est vraiment décuplée. Là. Mm-hmm. C'est comme non, genre ce que tu viens de dire là, c'est pas ça. Fait que dis la vraie affaire, puis là, comme la vraie affaire finit par jaillir, tu sais. Fait que ça fait que tu te caches pas, puis tu laisses tomber un peu les murs, comme on a fait pendant le podcast, dans le fond. Puis c'est vraiment, ça a bien résonné aussi, ce podcast-là. Il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit par la suite, qui ont écrit à Paisy, qui ont écrit à Sandrick, que genre ça les a aidés, là. Casse mieux se découvrir. On va aller écouter un extrait. Nicole, choisis celui que tu veux, dans le fond.
Extrait.
J'étais un bon consommateur dans la vie, moi. J'ai consommé beaucoup. À partir de ma dépression, là, ça a toujours été ancré un peu dans moi d'évader mes feelings. Là, je vais partir sur une chire, là. Mais d'évader mes feelings constamment. Puis j'ai commencé jeune à consommer. Puis je sais pas, je m'en allais où avec ça.
Vas-y, continue.
T'es rendu où aujourd'hui?
Oui, c'est ça. Puis,
J'ai
négligé comment je pouvais filer, puis le pourquoi du comment, puis j'étais toujours, c'était pas de l'alcool, c'était pas un joint, t'sais, j'ai pensé.
T'étais-tu conscient de ça?
Non, j'étais pas conscient.
T'étais pas conscient que t'avais un problème de consommation?
Non, jusqu'à temps que l'année passée, écoute,
Est-ce que ça a été accentué quand tu es sorti de
OD et
qu'il y avait de la tension médiatique?
Absolument.
Et tout?
Mais je pensais pas que j'avais un problème encore à ce moment-là.
Ouais, ouais.
Puis l'année passée, ouf. Je pense que c'est le plus beau jour de toute ma vie que j'ai vécu. J'étais. Je sortais avec Dédé, on était à l'appart, puis une soirée, on était revenu à la maison, puis Paisy et Joe sont arrivés à la maison. Paisy est censé être à Québec. Puis ils m'ont fait une intervention, tu sais. Ils m'ont dit comme là, Cendrick, ça va pas, là, ça marche plus. Là. Puis ils m'ont, tu sais, ils avaient tout pris les démarches pour la désintox, puis les informations, puis le. Puis je voulais rien savoir, tu sais, mais ça a été le mon TSN turning point de ma vie, là. Puis c'est là que je suis rendu aujourd'hui, c'est que j'ai traversé ça. Mm-hmm. Je peux pas être nulle part d'autre ailleurs que là dans ma tête. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis heureux, puis je suis bien, puis je suis confortable. Puis ce gars-là, il y a 2 ans, il pouvait pas croire qu'il pouvait se rendre là aujourd'hui. Je suis bien que moi-même, j'ai pas besoin de consommer. Là, tu sais, je prends une bière, je la déguste, je l'aime, j'ai pas besoin d'en prendre plus. Je peux pas croire que je suis rendu là. C'est là que je suis rendu dans ma vie.
Mm-hmm.
C'est là, j'aurais pu en parler plus longtemps, mais...
Ben non, mais
c'est la première fois que t'en parles, en
ben
plus.
Oui, c'est
personne
ça.
Félicitations, man.
Ben
bravo.
Oui.
Personne.
Puis c'est ça. J'ai accepté que j'avais des struggles, que j'allais avoir des struggles toute ma vie, que j'allais être pas bien pour certaines... À tout, tu sais, je veux dire, je peux me lever un matin puis je file comme de la crise de marde, puis j'ai la même vie qu'hier, puis je sais pas pourquoi. Puis avant, ben c'était... Ben, faut que je fume un joint, faut que je prenne une bière, c'était fou, là. C'était... À la fin, c'était... Je travaillais pas l'hiver, je faisais mes shows de télé l'été, puis tu sais, c'était...
Et je pense qu'on s'est pas parlé durant 6 mois presque. Là.
J'avais un cocktail à tous les jours, là. Tu sais, c'était 6-7 bières par jour, 2 Monsters, je mangeais pas, je prenais du Vivance, des antidépresseurs, je fumais 3 grammes de pot. Écoute, je fumais un paquet de top, j'étais...
Mais c'était plus folie, présent, je reconnaissais pas ces gens, vide, ils bougeaient de même tout le temps.
Non, ça allait pas du tout.
J'étais blasé.
Fait qu'aujourd'hui, c'est là que je suis rendu. Même j'ai traversé cette petite tempête-là, puis j'ai retrouvé mes priorités, puis j'ai retrouvé les gens que j'aime autour de moi. Puis c'est fou, man.
On est de retour. C'était l'extrait du podcast avec Cendrick et Paisy, qui était vraiment un beau podcast. C'était vraiment des podcasts... des podcasts qu'on met nos trips à la table, puis qu'on tombe dans le real.
Ouais.
Ça n'est un qui c'est le plus arrivé, là, ever. Là, moi, un autre podcast qui m'a marqué, tu sais, il y a différents types de podcasts dans les podcasts. Mm-hmm. Des podcasts vraiment plus humains comme ça, des podcasts scientifiques, des podcasts...
On a ratissé large dans la dernière année quand même.
Podcasts sur l'actualité, des podcasts sur l'entrepreneuriat. Il y en a vraiment pour tous les goûts.
Mm-hmm.
Puis un de ces types de podcasts, là, c'est justement sur l'actualité avec des journalistes ou des experts sur des situations, mettons, soit géopolitiques ou... Bref, puis moi, le podcast que j'ai en tête en ce moment, c'est celui sur le conflit israélo-palestinien avec Sabri Nomir, qui était vraiment... c'était un des premiers qu'on a fait dans... C'était comme genre... On a fait un autre sur l'Afghanistan aussi, qui était tout aussi intéressant. Mais avec Sabrina, c'était vraiment... C'est des conflits tellement complexes. Puis... qui dure depuis tellement longtemps, tu sais, je veux dire, le conflit israélo-palestinien, on n'était pas nés là, quand c'est commencé, tu sais, ça fait que c'est souvent longtemps, c'est excessivement complexe, puis souvent, justement, quand tu suis l'actualité, ben c'est, va être l'actualité de ce conflit-là, où est-ce qu'on en est rendu maintenant, sans nécessairement tout le bagage pour essayer pour comprendre, puis mettre ça dans un contexte qui fait que ça, tu comprends le conflit, puis ça fait du sens, t'sais. Puis je pense qu'avec ce podcast-là, on a vraiment réussi. En tout cas, moi, je suis vraiment ressorti de là en ayant une meilleure compréhension de ce que c'est ce conflit-là.
En étant capable d'en parler après, tu sais. Ouais. D'en parler en connaissance de cause à place de juste avoir des petites bribes de peut-être que la bande de Gaza, c'est là, puis c'est quoi exactement? Pourquoi ça s'appelle la bande? Puis c'est quoi, tu sais, toutes ces affaires-là qui sont comme juste un peu floues, mais que là, c'est comme « Ah, OK, maintenant, je le sais. » Je suis au courant maintenant de
puis
ça.
C'est ça, tu sais, c'est... Encore une fois, c'est de la géopolitique complexe, là. Et puis, il y a plusieurs... tu sais, je repense à l'extrait où est-ce qu'il nous explique que, tu sais, dans le fond, Jérusalem, c'est une terre sainte pour, finalement, toutes les plus grandes religions.
Tout le monde,
autant le christianisme que le judaïsme que l'islam. Puis que tout le monde se dispute un peu ça. Tout le monde, tu sais, veut revenir à ce territoire-là. Puis que... Puis bref, tu sais... Il y a un moment dans le podcast, je me souviens que c'était comme... On parlait beaucoup de les derniers événements, ce qui s'est passé. Puis là, on a comme fait un genre de... juste pour qu'on parte tout à même
on
place.
On commence au début.
On peut-tu repartir au début, tu sais, puis là, on est parti, Deuxième Guerre mondiale.
Ouais.
C'est comme, évidemment, là, les Juifs vivent la pire atrocité. Après ça, on fait, OK, on va vous donner un territoire, un État pour que vous puissiez vivre en tant que peuple. Ça cause des conflits, il y a des guerres qui s'en suivent, il arrive ça. Les Juifs, les Palestiniens sont occupés finalement ou sont confinés à certains territoires, nanana. Puis qu'en fait, quand on arrive aujourd'hui, là, je l'ai vraiment vulgarisé, mais
vous irez écouter le podcast.
On va aller écouter l'extrait ou tu sais pour avoir le meilleur portrait. Là. Mais bref, je pense que c'est nécessaire. Puis c'est tu sais, il y a des podcasts de même que c'est pas nécessairement ceux qui ont le plus grand nombre d'écoutes, mais on s'en fait quand même plus parler que d'autres.
Ouais, celui-là, on s'en est fait parler énormément. Là.
Moi, s'en est fait
c'est
parler.
C'est probablement une de cette année que je me suis fait le plus parler.
Ouais, mais moi aussi. Puis il y avait du monde, je me souviens que Vincent Vallière, quand il était venu, il avait dit « Hey, j'ai écouté ça, les gars, j'ai vraiment, ça m'a vraiment aidé à comprendre, puis c'est cool que tu sais vous avez expliqué vraiment le contexte puis l'histoire de cette affaire-là, nanana. » Fait que, tu sais, des fois, il y a des podcasts que... Qui sont nécessaires, du moins pour nous, pour comprendre quelque chose. Puis j'imagine qu'on n'est pas les seuls à vouloir comprendre ça. Fait que, yeah, merci Sabrina.
Tout à fait.
Fait qu'on va aller voir l'extrait.
Let's go.
C'est comment vivre à Jérusalem? Comme le day-to-day, y a-tu. Tu sais, j'imagine que ça doit être à la fois vraiment beau, mais à la fois tendu. Mettons, c'est comment? Est-ce qu'il y a une tension constante? Est-ce qu'il y a... Comment ça a l'air?
Quand je suis arrivée à Jérusalem, moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Hein, ça a été long avant que j'aime.
Ah ouais.
C'est comme si... parfois, les premiers voyages qu'on fait dans nos vies, là, on tombe en amour avec le pays, puis tout est extraordinaire. Là, j'en avais vu d'autres. Puis je suis arrivée là, puis je me suis dit, oh, c'est pas comme j'imaginais. J'étais un peu déçue. Puis après, j'ai comme appris à aimer le Jérusalem, à aimer travailler en Israël, aimer travailler dans les territoires palestiniens. Puis après, je suis plus capable de décrocher. Je suis vraiment attachée à cette région-là du monde. Jérusalem, ça ressemble, comment dire, Jérusalem-Ouest, ça ressemble un peu à chez nous. Bon, évidemment que l'architecture n'est pas la même, mais si tu veux manger des sushis, pas de problème. C'est pas. Les gens, je sais pas ce que les gens s'imaginent. Parfois, il y a des gens qui me disent ah ouais, on s'imagine une colline avec quelques ânes, une église. Tu sais, bon, comme dans le temps de Jésus.
Ouais, c'est une ville moderne quand même.
Ah, c'est moderne. Oui, c'est tout à fait. C'est moins moderne que Tel Aviv, par contre. C'est pas le même style du tout. Tel Aviv, c'est une bulle. Il y a des gratte-ciels, tout ça. Jérusalem, il n'y a pas ça. Il y a une architecture spéciale dans l'Ouest, c'est des pierres un peu beige, un beige rosé, là, typique des pierres de Jérusalem. C'est très, très beau. Il y a des quartiers qui sont un petit peu moins beaux parce qu'ils sont un peu moins favorisés, les quartiers ultra-orthodoxes, entre autres. Dans l'Est, c'est complètement différent. Là, tu as un style plus palestinien. La rue principale de Jérusalem-Est, Salah Eddin, c'est des commerces. C'est pas le même style du tout, mais aussi la ville reçoit pas... Jérusalem-Est reçoit pas le même financement de la ville. Okay. Donc, c'est sous-financé quand même. Donc, ça paraît.
C'est-tu moins occidentalisé, mettons?
Oui, tout à fait. Ouais, c'est beaucoup plus moyen-oriental, je dirais. Ouais. Même si les Palestiniens sont très, très ouverts. Il y a plein de femmes qui ne portent pas le voile nécessairement. Tu as des Palestiniennes chrétiennes. Donc, c'est assez facile d'y vivre, honnêtement. C'est assez facile. La tension, on ne la sent pas tout le temps. Vraiment pas, même. Il y a plein de touristes dans la vieille ville de Jérusalem, là. Même trop. Parfois, je rentrais de... Je revenais de travailler, puis c'est comme... On vivait dans la vieille ville, là, mais assez creux. Mm-hmm. Donc là, je devais marcher sur Al-Wad Street, là, qui est comme la rue principale du quartier musulman. Puis là, j'étais comme, s'il vous plaît, excuse me. Je devais essayer de passer mais des groupes de touristes, mais c'était fatigant. Mais en même temps, c'est que ça fait vivre les commerçants de la vieille ville. Donc, j'étais qui, moi, pour m'en plaindre? Je suis ni palestinienne, ni israélienne. Donc,
Est puis Ouest communiquent librement.
Oui, il n'y a pas de checkpoint entre les deux. La vieille ville est située dans Jérusalem-Est, par contre. Puis, quand je vous dis qu'il y a tout un monde qui les sépare, c'est que c'est vraiment différent. Tu le sens quand tu passes dans l'Ouest. Mais c'est super près, là. C'est-à-dire que moi, en étant dans la vieille ville, je sortais par la porte de Jaffa, j'arrivais dans l'Ouest directement. Je pouvais aller prendre une bière. On allait prendre des bières avec des amis au Ataclit, là. J'allais manger des sushis aussi dans ce qu'on appelle German Colony. Après, le même soir, je pouvais aller dans l'Est, aller sur une terrasse avec une vue sur la vieille ville. Je sais pas, moi, manger de n'importe quoi.
L'italien.
Non, oui, tout à fait. Donc, tu sais, c'est assez facile d'y vivre. On sent pas les tensions, sauf que Quand tu vis là assez longtemps, tu sais très bien qu'il suffit d'une étincelle pour que le visage de la ville change complètement. C'est pas long, là. Ouais. C'est vraiment comme ça. C'est un claquement de doigts, puis à un moment donné, là, tout à coup, ça change. Là, c'est plus la petite ville touristique, le fun, l'oasis de coexistence, c'est plus ça du tout, là. Puis je pense qu'il faut vivre là, puis bien connaître le contexte pour reconnaître les indices.
Quand ça arrive.
Ouais, quand ça arrive.
On est de retour.
Yeah!
Un autre podcast qui a marqué l'année, puis c'est quand même plutôt récent, même si là, on a fait d'autres podcasts depuis, mais le podcast avec Patrick Lagacé.
Ouais.
Patrick Lagacé qui est une légende absolue, malgré, tu sais, je veux dire, il n'est pas si vieux que ça, là, tu sais, pour avoir fait tout ce qu'il a fait. Là, ouais. On dirait qu'il a un CV à ouais. l'infini, mais comme il a genre 50 ans, là, tu sais. Mm-hmm. Puis... Puis c'était un réel honneur de le recevoir. Tu sais, des fois, il y a du monde de même. C'est comme c'est quoi le mot que je cherche? Là?
Des idoles.
Des idoles, mais des références dans ouais. un milieu, tu sais. Puis le monde du podcast s'apparente quand même. Ben, c'est la télécommunication, là, tu sais. Ouais. C'est le domaine de la communication. Puis lui, c'est une légende de ce domaine-là. Là, ouais.
C'est ça, radio, télé.
Radio, télé, journal. Tout ça, c'est comme les communications, les médias. Puis on œuvre un peu là-dedans. Puis lui, c'est vraiment une référence. Puis un établissement, c'est ça, je veux dire, tantôt. Mm-hmm. Fait que c'était vraiment un honneur de le recevoir. Puis c'est tout le temps le fun. Puis là, je vais nous lancer des fleurs. Là, mais c'est tout le temps le fun. À la fin du podcast, il nous a dit, hey, les gars, genre, c'était vraiment, vous êtes vraiment bons à faire ça. Puis. Venant de lui, mettons, c'est comme crime, c'est flatteur.
Il l'a partagé, puis il a dit, les deux gars vraiment...
Longue vie au sans fil, c'est comme, c'est touchant quand même. Puis lui, il est vraiment, vraiment intéressant. Puis tu vois que... Il n'y a plus vraiment de place pour la bullshit dans sa vie, là, tu sais, comme... Il va dire exactement ce qu'il pense, puis il va avoir des fois de la merde sur les réseaux sociaux, mais en même temps, il va tout le temps être fidèle à son opinion, puis il va pas courir après le clickbait de façon outrageous, là, tu sais, comme certains de ses collègues peuvent faire. Il va juste rester... Oui, il va jouer avec les codes, là, tu sais, oui, ça prend un titre accrocheur pour des affaires de même quand il fait des chroniques, mais il va jamais essayer d'aller dans le mauvais goût, dans le déplacer, puis... Je trouve ça vraiment honorable d'avoir fait une carrière comme ça. Là,
il va pas dans la malhonnêteté intellectuelle,
non,
mettons.
Non.
Puis, tu sais, ça va vouloir trash-talker, mettons, Martino. Tu sais, ce qu'il nous expliquait, qu'il lui reprochait, c'est un peu ça, là, mm-hmm. de prendre une chose hors contexte, ce que quelqu'un a dit, puis créer une histoire, puis essayer de créer une controverse, puis autour de quelque chose qui est complètement fabriqué, finalement, qui n'était même pas ce qui était dit à la base, puis tout. Puis, tu sais, l'importance, tu sais, il revenait souvent sur l'importance de la rigueur, puis que l'importance pour lui de rechecker ses faits, de rechecker ses sources le plus possible pour pas faire d'erreur, tu sais. Puis même si c'est de l'opinion, la rigueur est importante quand même, parce que, tu sais, de fonder une opinion... Pour avoir une opinion informée, il faut quand même se baser sur des faits. Il faut quand même se baser sur quelque chose de solide. Puis justement, si tu fais de l'opinion, mais de baser sur des demi-vérités ou des demi-faits ou des choses prises en contexte, ben ça sert à personne. Là,
ouais, exact.
Puis
c'est un bon cours sur la rigueur journalistique aussi. Ouais. Puis après ça, on a comme follow-up ce podcast-là un petit peu plus tard avec Louis Bernard qui nous parlait aussi de sa méthode pour avoir fait son podcast. Là, puis je trouve qu'il y avait des similarités dans leur discours. Puis c'est malheureusement un des problèmes actuellement avec les médias, c'est le manque de rigueur journalistique de plusieurs chroniqueurs, mettons, puis de médias mainstream. Puis c'est dommage, là, tu sais. Même si, inversement, il y a du monde qui font du travail incroyable. On a reçu, tu sais, Jeff Yates, justement, qui nous a parlé. Puis évidemment, il y a du monde qui font du travail de bombe. Sauf que c'était le fun de voir sa perspective à lui. Parce que lui, il l'a vu évoluer, le monde des médias, là.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, il est pile dedans. Il est un acteur clé du monde des médias depuis les 25 dernières années, là. 20-25 dernières années. Fait que, tu sais, il a vu ça évoluer. Puis le fait qu'il me dise, justement, mettons, que ça le surprenait pas, le conspirationnisme, là, tu sais. Mm-hmm. Qu'il était zéro surpris d'un mouvement de même parce que c'est arrivé avant, puis ça va réarriver encore. Puis c'est vraiment cool de voir cette perspective-là sur ce domaine-là.
Ouais, puis, tu sais, on a parlé beaucoup, justement, de l'état des médias, l'état des journaux maintenant, tu sais. Puis que, justement, le fait que, mettons, certains chroniqueurs de certains médias peuvent être rémunérés, mettons, au clic. Ça cause un genre de conflit d'intérêt. Là. C'est comme... À un moment donné, le clic pour le clic, c'est comme jusqu'où tu vas à un moment donné, c'est sûr que la rigueur va prendre le bord. C'est sûr et certain. Là, fait que puis l'arrivée aussi des médias sociaux, de médias alternatifs, puis tout ça, ça a du bon, mais ça a beaucoup de moins bon aussi. Là.
Ouais.
Fait que, ouais, grosse réflexion sur les médias, sur le métier de chroniqueur, sur le métier de
avec une des meilleures personnes pour en parler, là, honnêtement.
Ouais.
Ouais. Ouais. On va aller écouter un extrait, celui-là de ton choix, Nicole.
Extrait. Ce qui démarque les médias, j'ai l'impression que ce qui démarque les médias crédibles aujourd'hui, justement, c'est leur crédibilité, puis c'est leur rigueur, puis c'est l'exactitude des informations oui. qu'on y retrouve, que justement, que là, on commence à se rendre compte, OK, non, OK, ça peut être dangereux, justement, Joe Blow qui écrit n'importe quoi sur n'importe quel sujet. Puis les médias traditionnels, ils ont la plupart ce souci-là, puis ce devoir-là d'exactitude, puis que maintenant, il est plus pertinent que jamais.
T'sais. Ce qui vient avec, pour beaucoup de gens, avec une certaine dose de frustration. Je vais te donner un exemple. Quand, à l'été 2020, Safia Nolin a fait ses dénonciations ouais, sur Instagram à propos de Marie-Pierre Morin. Les médias reçoivent ça. Écoute, tu reçois ça,
ouais.
mais je veux dire, premièrement, tu peux pas juste prendre ça puis mettre ça à la une du Journal de Montréal, de la presse, du Devoir. C'est comme média, tu peux pas faire ça. Tu as une obligation de vérification, tu as une obligation d'essayer de parler à toutes les parties impliquées comme Safia, comme Marie-Pierre Morin. Mais moi, je me souviens que le lendemain, Safia Nolin, c'était peut-être pas le lendemain, c'était peut-être même le jour même, là, Safia Nolin avait exprimé sa frustration du fait que les médias traditionnels n'avaient pas donné écho à ces révélations.
Ouais.
Écoute, on peut pas faire ça. Notre job, notre force, c'est de vérifier.
De confirmer ou infirmer les
oui,
faits.
Puis de publier des affaires dont on a... vérifier la véracité,
oui.
ce qui ne veut pas dire qu'on ne se trompe pas. Mais je me souviens qu'autour de Safia Nolin, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ben oui, les médias, ils font pas leur job, ils ont peur des poursuites. » Écoute, c'est pas tant une peur des poursuites que de vouloir dire des choses qui sont vraies. Et là, Safia, dans mon souvenir, là, okay, là, ça se peut que je m'en fâche dans quelques détails, mais Safia Nolin disait quand il s'agit de parler de mon habillement à la disque, là, les médias sont là. Oui, évidemment.
On le voit.
T'as un chandail de Jerry Boulet, on écrit qu'il y a un chandail de Jerry Boulet. Moi, c'est pas mon truc, tu comprends? J'écrirai pas là-dessus, ça m'intéresse pas. Il y a des médias qui ont beaucoup écrit là-dessus. Tu portes un chandail de Jerry Boulet.
Facilement vérifiable.
On le voit, facilement vérifiable. Quand t'allègues quelque chose comme ça, comme média, puis je comprends là, que pour les personnes qui ne sont pas versées dans comment fonctionne le journalisme, ça peut être frustrant dans une époque où tout est immédiat. Comment ça se fait que la presse n'en parle pas? Christy, on veut vérifier. Parce que dans 5 ans, c'est pas la page Instagram dont on va se rappeler.
Surtout dans Story de 24 heures. Là.
Exact. Ça va être, je ne vais pas dire oublié, mais dans le cas de Safia, ça a tellement fait un boom, ça ne sera pas oublié. Mais dans 5 ans, c'est dans la presse qu'on va aller voir ce qui s'est dit.
Ouais.
C'est dans la presse qu'on va vérifier comment ça a été dit, à quel moment. Donc, tu as un devoir de vérifier. Puis plus que jamais, quand le monde est dans l'immédiateté, comme média, il faut toujours se rappeler que notre job, c'est de publier des trucs qui sont vrais. Et ça, c'est plus important que d'être le premier à publier.
Mais oui. Puis c'est pour ça que justement, tu sais... un travail comme l'a fait Le Devoir, justement, pour rester dans la même période puis dans le même mouvement. Là, mais Le Devoir qui avait fait un dossier sur Julien Lacroix. Puis là, tu avais tout un travail journalistique qui avait été fait, qui avait rencontré, je pense, 9 victimes. Ça tombe, puis je veux dire, c'est sans équivoque. Je veux dire, il n'y a pas de doute là-dessus du travail qui a été fait versus un témoignage anonyme qui sort sur Instagram. Puis ça veut pas dire qu'il est pas vrai, mais il y a quand même, entre les deux, il y a quelque chose qui est plus solide. T'sais.
Ben, en fait, c'est que les standards sont différents.
Mm-hmm.
Puis ce qui veut pas dire que les gens qui publient du contenu sur Instagram ont pas leur utilité. Il y a bien des enquêtes journalistiques qui partent de ce qui part dans les médias sociaux. Donc, moi, je méprise pas ça du tout. Je dis juste que le standard est différent, puis ça, il y a peut-être un travail de pédagogie de notre part à faire.
We're back! Après un extrait du podcast avec Patrick Lagacé.
Ouais, Patrick Lagacé, c'est vraiment un grand honneur de recevoir
Grand honneur.
Moi,
Pat, je l'appelle Pat maintenant qu'on l'a reçu sur le podcast.
Pat là. Non. j'allais trouver un surnom.
Oh, ouais.
C'était dur de choisir. Parce qu'on s'est dit qu'on choisissait trois. Puis il y a eu des beaux podcasts.
52 podcasts.
52 podcasts. C'est dur d'en choisir juste trois. Mais moi,
plus que 52 cette année. On a fait l'année.
Ouais, l'année, on en faisait deux par semaine. Mais celui que j'ai choisi, il vient juste de sortir, là, tout récemment.
Il est tout chaud sorti du four.
Ouais, tout chaud sorti du four avec Louise Sigouin.
Quelle femme extraordinaire.
Louise. Comment ne pas adorer Louise?
Impossible. Si t'adores pas Louise, t'es probablement un psychopathe.
Tout le monde à qui je parle de Louise, qui sait c'est qui, fait « Ah, Louise! Mm-hmm. » Elle est tellement hot, elle est tellement bienveillante, tellement genre, quand t'écoutes, mettons, l'émission, là, si on s'aimait, ça paraît tellement qu'elle est... qui est bonne puis qui a vu le meilleur pour... Elle est tellement cute, là. Puis, elle nous a parlé des 5 dualités. Puis moi, tu sais, mettons, t'sais, en écoutant l'émission un peu, j'étais comme, OK, ouais, c'est intéressant, les dualités, mais je comprenais pas trop c'est quoi. Puis là, j'ai lu son livre, tu sais, avant de le recevoir. Puis je fais, OK, c'est intéressant, ça, les 5 dualités, parce que là, tu lis ça. Puis là, évidemment, ce genre d'affaire-là, tu te reconnais. Tu fais comme, OK, ah, ça me ressemble. Ah, ça me ressemble moins. Ah, ça ressemble à ma blonde. Ça ressemble à mon ami. Ça ressemble à ci. Puis, on dirait ça... Ça développe, ce genre d'affaire-là, l'empathie. Ça développe le, OK, on a des comportements différents, mais tu sais, parce qu'on est juste fait différemment, puis faut que je comprenne que l'autre fonctionne de même, puis moi, je fonctionne de même. Puis si je comprends comment je fonctionne, puis je comprends comment l'autre fonctionne, c'est plus facile de comprendre ses comportements, c'est plus facile de faire genre... puis d'essayer de se retrouver dans le milieu. Mais c'est plus facile de pas faire genre, voyons, pourquoi tu fais ça de même? Pourquoi t'es... T'sais? C'est comme, on est tous constitués différemment, on est tous différents... On est tous sur différents spectres des dualités, tu sais. Puis... ouais, ça, puis mettons, tu sais, il y a plein d'exemples dans le livre, il y a plein de situations qui sont décrites, puis c'est comme, tu sais, tu fais tout le temps genre, ah ouais. Ça c'est telle personne, ça c'était moi dans le temps avec, tu sais, puis ça permet justement de grandir, de devenir un petit peu plus mature, un petit peu plus avoir un petit peu plus de recul, puis un petit peu plus de compréhension dans toutes les situations de la vie, dans le fond, là, de couple, d'amitié, fait que c'est vraiment intéressant. Fait que on a fait aussi nos dualités.
Ouais, c'est ça. Moi je pense, man, cette année-là, on a quand même fait une couple de podcasts sur les relations. Puis honnêtement, je pense vraiment ça accumulé à genre des conversations hors micro. Ouais. Là. Mais souvent, on arrivait dans un podcast où il y avait quelque chose qui pas m'ébranlait, mais qui venait me rejoindre vraiment beaucoup, un concept, mettons. Puis avec le podcast de Louis Sigouin, c'est un exemple parfait
genre
de ça.
Le moment Eureka.
Le genre de moment Eureka où est-ce que je ramène ça chez nous. Puis là, ça spin, man. Puis là, mettons, il n'y a rien. Je parle vraiment souvent de sport, mais je vais continuer parce que je trouve que c'est la chose la plus importante au monde. Mais là, je vais courir, mettons. Là. Puis là, ça spin. Puis là, on dirait que c'est du problem solving. Puis j'applique, mettons, ça à moi. Puis je déconstruis des affaires. Puis j'essaie de... tu sais, comme quand je tourne le micro de bord, là, je le déconstruis vraiment. Puis ça, j'essaie de le remettre dans l'ordre de la bonne façon, tu sais, pour essayer de déconstruire des mécanismes, puis briser des patterns, qui est un peu ce que Louis Sigouin vise faire, tu sais. Puis de par ces conversations-là, j'ai vraiment l'impression que j'ai vraiment beaucoup amélioré ma vision des relations puis ma tolérance par rapport à certaines affaires, comme tu viens de dire là, tu sais, juste l'empathie envers les autres, mais aussi la réelle compréhension de toi. Parce que si tu te comprends vraiment, puis tu sais où mettre tes limites, puis tes frontières, puis tu sais aussi où faut que tu mettes ton effort pour améliorer telle ou telle affaire, c'est pas mal plus facile de le verbaliser et de le dire dans une relation, tu sais. Puis d'établir vraiment, tu sais, un dialogue sain, tu sais. Puis l'année a commencé avec Guillaume Dulude, qui est venu nous parler de communication sur le podcast aussi, tu sais. Puis tout ça mis ensemble fait que comme, OK, je me suis beaucoup amélioré. Encore beaucoup de chemin à faire, là, tu sais, je vais pas me mentir. Mais au moins, ça a comme été un genre de déclic au courant de l'année qui se culmine avec... Ça aurait pas pu être une analyse plus claire de ma personne selon mes 5 dualités, là, ce qu'on a fait pendant ce podcast-là. Puis on l'a fait pour nous deux, dans le fond. On peut aller mettre cet extrait-là parce que c'est assez parlant de comment c'est frappant, là, tu sais. Fait que super podcast avec Louis Sigouin. Puis Nikki, mets cet extrait-là.
Extrait. Moi, j'ai de la misère à... La plupart, c'est pas clair pour moi, mettons, de quel bord du spectre je me trouve. Okay, certains est-ce que plus que d'autres, mais...
Dépendant qu'au dépendant. Mettons, je t'aide rapidement. T'entends-tu?
Toi, c'est clair pour toi?
Ben, moi, vis-à-vis moi, c'est extrêmement clair.
Je trouve
clair.
Que toi, c'est facile. Ouais. Je trouve que, non, mais c'est vrai, je trouve que toi, c'est comme tu lis des descriptions.
Mais toi, dis, ah, peut-être que toi, ça varie selon...
peut-être ça varie de la relation. La relation ou je sais pas, peut-être que c'est... Je suis moins
il y en a une couple que c'est facile quand même. Là.
Ouais.
Es-tu plus préoccupé par tes besoins ou les besoins des autres?
Je dirais mes besoins.
OK, dépendant.
Ouais. Ouais.
Est-ce que tu es un vite ou tu es un lent?
Je dirais vite parce que j'essaie toujours de faire le plus d'affaires possible.
T'es vite.
Ouais.
T'es émotif ou rationnel? T'es un homme de beaucoup de mots ou t'es un homme...
J'irais pas vite aussi clairement que ça, là. Tu sais, mettons, c'est pas rare, mettons, qu'on part d'une place puis t'as encore une brosse à dents dans la bouche avec, genre, en train de finir deux, trois affaires.
Mais
parce
c'est
que...
ça, mais c'est à cause j'essaye de finir deux, trois affaires parce que je veux faire le plus d'affaires possible. Fait que je vais être vraiment juste ou en retard, mais à cause que
faut que je
fasse le plus de choses, tu sais.
OK, fait que ça te rend lent, finalement.
Ouais.
Je crois que j'aurais plus tendance à dire ça, ouais.
OK, fait que dans le fond...
c'est drôle, ce jeu-là.
on va faire toi après.
T'es-tu rationnel ou émotif?
Ben, certaines personnes diraient... Mettons, ma blonde dirait que je suis émotif, puis du monde avec qui je travaille qui dirait que je suis rationnel, vraiment rationnel.
Fait que ton émotif, qui fait 50 affaires en même temps,
ouais.
Il se brosse les dents, puis il check un peu de nouvelles, puis il écoute une autre affaire, puis sa tosse, ça vient de lever,
ouais.
Te ralentit. Fait que t'es un lent. Parce que tu marches au feeling. Là, tu dis, hop, attends une minute, j'ai donc ben des dossiers ouverts.
Ouais.
Tu vois, fait que c'est ça qui me confirme que t'es lent, dans le fond. Parce que t'es comme un enfant. Hop, écoute, un petit peu bonhomme. Ouais. Là, hop, son pyjama. Oh, son running. Ça a pris 4 heures. Tu sais, mais c'est parce que tu marches au feeling, fait que t'es lent.
Ouais.
Ça sonne un peu comme toi. Non,
ouais.
Fait que t'es dépendant, émotif, lent. Ouais. Quoi d'autre? Actif, rêveur.
Mais il est quand même.
Mais au travail, peut-être qu'il est différent.
Non, mais même t'es quand même rationnel. Mais je pense que t'es un rationnel qui parle pas trop là, de ses émotions, mettons. Tu sais, la dualité rationnel-émotif, il est vraiment rationnel sur plein d'affaires de comme t'es super cartésien sur, mettons, les études pis ces choses-là, puis la science, pis ces trucs-là. Sauf que tu dis parles pas de tes émotions ben non plus. Là,
est-ce qu'ils sont clairs, tes émotions, pour toi?
Es-tu
clair comment tu te sens, mettons, sans être capable de le nommer?
Ouais, mais c'est assez... C'est assez égal, dans le sens que c'est rare qu'une journée, je vais être vraiment triste ou qu'une journée, je vais être...
Oui, mais... c'est pas nécessairement dans l'expression, mais c'est parce que probablement, lui, il te voit au niveau du travail, puis peut-être qu'au niveau amoureux, il est différent.
Ben, c'est sans aucun doute. Là.
C'est probablement ça.
Ouais.
Puis c'est peut-être tes champs d'intérêt qui sont très cartésiens et intellectuels, mais en fait, en relation, quand tu t'exprimes, est-ce que tu es un être de peu de mots ou tu es un être qui s'exprime librement et facilement? C'est là que ça va le déterminer.
Je dirais un être qui s'exprime librement et facilement.
OK. Fait que t'es plus rationnel, dans le fond.
Moi,
fait que les
ça.
Rationnels, ils sont très sensibles. Là. Les rationnels, c'est pas des pierres, puis c'est pas des gens, pas de cœur.
Ouais, ouais.
C'est juste que quand ils s'expriment, c'est des mots qui sortent au lieu que ce soit une émotion. Ça t'aide-tu à clarifier?
Moi, je dirais plus ça, là.
Ouais, rationnel.
Fait qu'un dépendant, rationnel, lent.
Ouais.
C'est quoi qui reste? Actif, rêveur. T'es-tu un amoureux, un lover?
Ouais.
Puis vite, fusionnel solitaire. T'aimes-tu ça passer du temps cocooning ou t'aimes plus faire toutes tes affaires puis rentrer à la maison puis être content de retrouver ta blonde? Je caricature rapidement, là, mettons, là, mais...
Ça, c'est pas clair. Parce que quand je suis avec ma blonde, je suis très fusionnel.
Ouais.
Mais on peut être des longs bouts sans être ensemble aussi, là, tu sais.
Puis toi, t'es bien parce que tu te réalises dans ta job, tu vois tes amis, tu vois ta famille, tu fais tes activités. Puis t'es bien de faire ces affaires-là sans
ben, elle. Mais c'est principalement le premier point, là, la job. les amis, la famille, c'est moins présent un peu. Là.
OK.
Mais c'est surtout ça.
Fait que quand t'es là, mais t'aimes ça te réaliser dans les autres domaines de ta vie.
Ouais.
Parfait. Fait que c'est probablement plus un solitaire. Mais quand t'es là, t'es là.
Ouais, quand je suis là.
Et on est de retour.
On est de retour, c'était le podcast avec... Louise Sigouin, puis je repense à ce que tu disais juste avant, là, tu sais, puis le chemin, tu sais, mettons, moi, en ce moment, dans ma relation, j'ai de loin la meilleure communication que j'ai eue ever dans ma vie, mettons, en couple, là. Puis c'est sûr que toutes les discussions qu'on a au podcast, on fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis comme meilleur que j'étais, puis que j'ai caché des affaires. Fait que comme toi, c'est comme, des fois, il y a des affaires qui sont dites, puis c'est comme, OK... Ouais.
Ça fait du sens, ça fait bien du sens.
Ça fait bien du sens, puis après ça, c'est comme... Ouais.
Mm. Là, nous, on a donné nos trois moments préférés de l'année. Nicole, qui est là avec nous. Nicole, qui est plus dans le local. On a changé sa position à peu près 7 fois. Nicole, il a passé du... En 2021, Nicole, il a passé 2 mois accroupi en petit bonhomme dans le coin de la pièce parce qu'on n'avait pas encore sorti la technique dans...
Mm-hmm.
Nicole, c'est un vrai warrior.
On a déménagé le local, nous a aidé.
Nicole,
j'ai des mal de dos à n'en plus finir maintenant.
T'as mal dans le cou aussi à cause de la chaîne avec laquelle on t'attache à ton bureau.
Ça, c'est vrai aussi. Je commence à être tanné aussi de boire uniquement de la Hochelag.
il est tout le temps sur la Hochelag et on n'a pas d'eau dans le local.
Je commence à être tanné d'être sous. Non, mais moi pour vrai, il y en a eu plein là, des podcasts, Le podcast avec Jean-Martin Fortier m'a vraiment resté en tête. Je dirais qu'il est arrivé dans un moment aussi où qu'on parlait beaucoup d'acheter local.
Mm-hmm.
Ouais.
Puis on en a parlé beaucoup, là, évidemment, dans ce podcast-là. Puis il nous a vraiment bien fait comprendre pourquoi c'est important, en fait, je trouve, de consommer local. Puis au-delà de ça aussi, ce que j'ai trouvé nice, c'est qu'il parlait de comment il faisait pour optimiser sa ferme à lui comme tel. Parce que lui, il disait qu'il y a 1 hectare, mais la réalité, c'est que quand les gros producteurs de bouffe, mettons, ils ont je sais pas combien d'hectares, mais comme c'est infiniment plus gros que ce que lui a. Mais par contre, lui, il a développé ses propres techniques d'optimisation pour arriver à, ben, pas concurrencer en termes de quantité.
À maximiser son espace.
À maximiser vraiment son espace à lui.
Ouais.
Puis c'était comme pour moi, c'était un univers qui était loin vraiment de ce que je connais, mais c'était super intéressant en fait.
Mm-hmm.
Puis il a vraiment bien réussi à vulgariser tout ça. Moi ça a vraiment été un podcast fort là, dans la dernière année. Comme tout podcast confondu, c'est un podcast qui est resté, qui m'a fait aussi réfléchir aussi sur tout le gaspillage alimentaire. Là, and shit, mm-hmm. là, on en a parlé beaucoup. Puis non, moi, ça m'a fait réfléchir, puis ça m'a fait changer les habitudes que j'avais, là, carrément.
Puis moi, mettons, là, après qu'il soit venu, j'ai commencé à faire quelque chose. J'ai commencé à aller à boulangerie sur Wellington pour pogner mon pain.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, je veux dire, c'est rien, là, c'est minime, là, tu sais, on s'entend.
Au lieu de pogner à l'épicerie,
de pogner une miche de pain, man, genre 2 fois par semaine à boulangerie sur Wellington.
Dire bonjour au petit monsieur.
Dire bonjour au monsieur, j'en profite pour me prendre un croissant, mettons, là, tu sais, ou genre whatever qu'ils ont à ce moment-là. Puis là, j'amène ça chez nous. Puis là, c'est mon pain, mettons.
Ouais.
Puis je me suis pas inscrit, malheureusement, encore à un panier de bouffe. Sauf que ce que j'ai fait, j'ai une application, parce que j'ai eu une collab avec cette application-là qui s'appelle Too Good To Go. Puis c'est genre, ils te donnent des... tu vas voir, mettons, à chaque jour, puis là, ils vendent des paniers de non-vendus dans les commerces locaux, mettons. Là. Fait que là, tu peux acheter un panier qui vaut genre 20$ à genre 3,99$ parce qu'ils vont jeter les affaires. Fait que ça, j'ai commencé à faire ça plus souvent. Puis dans le coin de Verdun, il y en a plein. Fait que si jamais ça t'intéresse, tu checkeras ça. C'est vraiment cool.
Mais c'est toutes les valeurs qui viennent avec ça aussi, de proximité, de communauté, tu sais. C'est vraiment, tu sais, mettons, le retour, tu sais, j'en parlais avec Jay tantôt, off-cam, tu sais, de mouvement, de retour au village aussi, mm-hmm. de retour, de se créer des micro-communautés, tu sais. Justement, je parlais de quand cet été, je suis allé enregistrer dans un village qui s'appelle Saint-Adrien, tu sais, puis qu'il y a vraiment une espèce de hub d'artistes puis de créateurs qui sont là, puis c'est tout est full traditionnel parce que c'est un village, mais moderne en même temps, mm-hmm. genre une épicerie en vrac 24 heures, tu peux rentrer à 2 heures du matin, pogner ce que tu veux, le peser, payer ça, libre-service, ressortir. Genre, c'est vraiment comme... Puis, c'est vraiment une gang de monde, là, tu sais, qui font des affaires incroyables. Puis, je suis sûr qu'il y a des villages de même au Québec. Il y en a plein, tu sais.
De plus en plus, ouais.
Puis là, tu vas chercher, justement, tu sais, ton... C'est comme une espèce de quasiment d'autosuffisance, là, mettons, là, avec les agriculteurs, puis tout. Puis de ce contact-là avec sa bouffe aussi, là, tu sais, avec, mettons... d'aller chercher le toi tu parlais de chez le boulanger, mais tu sais, d'aller au marché Jean Talon, d'aller, tu sais, puis d'avoir le feeling que, tu sais, ta tomate, elle a été cueillie par ce gars-là qui t'adonne, puis qu'elle a été comme fait, tu sais, entretenue, faite pousser avec amour, avec, tu sais, avec, c'est, tu sais, puis Puis là, je pars dans une autre affaire. Mais tu sais, ça qui fait, tu sais, des fois, on est tellement déconnecté que, tu sais, on oublie quasiment que le monde, tu sais, quand on a de la viande, on oublie que c'est de la viande, là, qu'on oublie que c'est quelque chose que.
C'est un animal.
Fait que, tu sais, de retrouver cette proximité-là avec la bouffe, moi, c'est pas quelque chose que. C'est quelque chose que je fais plus qu'avant un peu parce que je cuisine vraiment plus, mais ça, c'est comme le fun, tu sais, de cuisiner les choses en saison, tu sais, d'avoir une espèce de contact avec. De lien avec le territoire, la terre, les agriculteurs, tu sais. Je trouve ça beau, je trouve ça des belles valeurs.
Vraiment. Nicole, tu mettras l'extrait qui te plaît pour ça? Extrait.
Cool. Moi, j'ai acheté à Frillisburg un clapier. Donc, c'était un ancien bâtiment où il y avait des lapins. C'était 4 hectares. J'ai payé 100 000.
Fait que c'était même pas une ferme à la base. Non. C'était juste un terrain.
Ouais, c'est un terrain. Puis, tu sais, tout mon modèle à moi est né de ma contrainte d'espace. C'est que, j'avais 4 hectares, j'avais 3 en bois que je voulais pas couper. C'était une érablière. Puis, fait que j'avais 1 hectare. Puis, au milieu de ça, il y avait un clapier qui faisait 100 par 40 que j'ai divisé en deux. J'ai construit ma maison dans une partie. C'était hot. C'était comme une grosse bâtisse comme ici. Là. Puis là, j'ai framé des planchers, des plafonds. Je me suis fait une maison. Mais ma contrainte de terrain, c'est que j'avais 1 hectare. Fait que moi, j'ai voulu la rentabiliser, la maximiser, développer des techniques pour toujours faire plus de légumes sur 1 hectare. C'est ça qui a créé mon modèle qu'à un moment donné, 8 ans plus tard, j'ai écrit dans mon livre.
T'as été forcé un peu à faire des choix qui t'ont amené vers la méthode que tu as.
Ouais. C'est pour ça que j'ai pas de tracteur. Parce que le tracteur, finalement, il prend bien de la place lui, quand il tourne. T'sais, quand il tourne au bout du rang, là, tu peux pas avoir des carottes là, tu vas t'effroyer toutes. Fait que, tu sais, moi, tout chaque mètre carré là, est en légumes. Serré tight, puis je travaille avec des outils manuels, puis, tu sais, j'avais voyagé à Cuba, j'avais vu des trucs là-bas, j'avais été en France, j'avais vu des trucs là-bas, en Californie. Fait que j'ai tout ramené ça ici. Puis on a mis tout en place un système qui est vraiment super performant, mais avec des outils manuels qui coûtent pas cher. Fait que, pour répondre à la question de tantôt, c'est les jeunes qui sortent de McGill... Ils n'ont pas besoin d'être propriétaires. Ils peuvent louer une terre, se partir une business, se monter des serres. Puis là, après 2-3 ans, là, ils ont une petite mise de fonds, ils ont un business case. Là, ils peuvent aller à une banque puis dire, écoute, moi, je vais acheter une terre. Je vais acheter une maison. Mais il faut que tu le fasses par étapes. Fait que, mais le modèle que moi, je fais, il te permet de faire ça. Mets-toi un container là, sur un demi-acre là, ou un demi-hectare, puis tu es capable de faire de l'argent.
Sur ton arc, combien de légumes différents tu fais? Puis mettons, combien de récoltes dans une saison tu peux faire?
Ben moi, je vais faire 2 à 3 légumes par... On a tout divisé l'hectare en planches. Là. Comme on a des blocs et des planches. Tu vas faire des successions. Donc, mettons que tu vas... Là, en ce moment, je vais ramasser des radis que j'ai semés, début mars. Okay? Là, je vais les ramasser. Après ça, je vais... Tu sais, le même jour, je vais transplanter des laitues. Les laitues vont être 40 jours. Puis après ça, je vais mettre des haricots. Fait que, tu sais, je vais avoir dans une même planche 3 légumes. Puis mes espacements de culture, mes haricots sont vraiment serrés parce que avec un tracteur, quand tu viens pour désherber, tu as besoin de laisser bien de la place entre chaque rang pour que l'outil passe. Je sais pas si...
comprendre.
Ouais, c'est ça. Fait que tout est dimensionné pour que ton tracteur circule. Fait que tes rangs sont loin. Tandis que moi, mettons, au lieu qu'avoir 3 rangs de carottes comme ça, j'en ai 5 ici. Parce que j'ai pas besoin d'aller sarcler avec un tracteur. Fait que non seulement je fais 2-3 légumes différents par planche, mais mes rangs sont 5 fois plus serrés. Fait que je suis sur 1 hectare, mais dans le fond, je produis comme si j'étais sur 10. Puis il y a bien des bénéfices à faire ça de même. Tu des coûts de production de moins, tu es plus efficace dans tes gestes, dans tes mouvements. Fait que c'est ça.
Nous voilà de retour.
Nous voici de retour.
Avant de clore l'année, de clôturer
ce best-of.
Ce best-of, on va faire un petit une couple de mentions honorables.
Parce qu'il y a tellement de podcasts, on pourrait en mettre
à l'infini.
Pour moi, un extrait pour chacun des podcasts qu'on a fait.
Exact.
Mais il y en a certains qui nous marquent plus. Quand on regarde la liste, on fait ah oui, ça c'était vraiment quelque chose. Moi, j'avais André Marquis.
Oui.
André Marquis, puis ça, je pense que c'est un de ceux qui a été le plus partagé par le monde. Là. On dirait que ça a vraiment comme.
Un de ceux qui est le plus écouté aussi en audio.
Un de ceux qui est le plus écouté. C'était comme le premier podcast qu'elle faisait.
Ouais.
Puis tu sais, elle est vraiment.
C'est extraordinaire.
Premièrement, elle est fucking attachante. Wow. Elle est drôle, elle est bubbly, elle est fun. Puis elle a une histoire, tu sais, d'entrepreneuriat de même, de succès de started from the bottom. Là. C'est quand même c'est inspirant pareil. Puis quand que expliquer que si ça a commencé en étant 15 000 piastres dans le rouge,
vendre
deux t-shirts la première semaine, puis c'est comme c'était le. C'était rough, là, le gros struggle, puis en y croyant, puis en travaillant fort, puis en étant débrouillard, c'est comme devenu ce que c'est devenu, c'est vraiment beau.
Andréane, tu sais, moi je l'ai revu une couple de fois après, là, dans d'autres contextes, puis quand elle se met à parler de business, tout le monde ferme sa gueule. Tu fermes ta gueule puis tu l'écoutes parce que tu bois ces mots là, genre c'est comme elle est vraiment vraiment sharp puis crissement fine aussi.
Mais il y a du monde que tu sais comme Elisabeth Rioux mettons, il y a du monde que comme c'est comme évident ils ont comme un talent. Il y en a qui ont des talents pour la musique, il y en a qui ont des talents pour la peinture puis les autres qui ont un talent pour ça.
C'est ça. Puis tu sais son motto à Andréane, c'est dans le doute gaz au bout là. Mais tu sais ça marche si t'as les intuitions qu'elle a là, tu sais, parce que Joe Blow qui se dit dans le doute gaz au bout, qui double hypothèque sa maison pour lancer sa compagnie de je sais pas quoi qui marche pas pantoute là, parce qu'il est allé était dans le doute, fait qu'il est allé gaz au bout, là. C'est pas optimal.
C'est pas tout le temps un bon conseil. Il y avait lui. Roger Godbout sur le sommeil, c'était vraiment intéressant.
Docteur Dodo, ça m'a aidé beaucoup à comprendre. C'est comme ça qu'il s'appelle. Il dit moi-même, je suis le docteur Dodo, puis il y a des affaires que je comprends pas. Là.
Ouais. Ça, c'était dans la lignée, justement.
Plus scientifique.
Expert scientifique sur des domaines. T'sais, on avait fait l'an passé.
La mémoire.
Sur les lupiens avec le stress. On a fait la mémoire cette année. On a fait plusieurs, mais M. Godbout, c'était. T'sais, par sa personnalité aussi, puis par le sujet, c'était un podcast qui stand out. Là.
Vraiment. Puis, tu sais, je veux dire, c'est ça, tout le monde dort, man. Une bonne partie de sa vie, là. Fait que might as well en profiter, là. Faire ça comme du monde.
Ouais. Vincent Vallière. Vincent Vallière, c'est le fun.
Mm-hmm.
Ça avait dit ça dans le podcast, c'est comme j'avais l'impression de parler à moi du futur.
Ouais, exact.
C'était comme si on se ressemblait un peu d'où on venait, comme de genre de famille, puis de genre de parcours de vie, mais juste comme lui, comme
il est plus vieux,
12 ans en avance, mettons. Là, quand il parlait de, mettons, début, fin vingtaine, début trentaine, c'est quand, mettons, on va s'aimer encore est sorti, c'était comme il venait s'acheter une maison, commencer à fonder une famille, beaucoup de deuils, tu sais, les deuils de la vingtaine à faire, puis c'est comme, nous autres, on est pile dedans, les deuils de la vingtaine, tu sais, fait que c'est comme beaucoup de choses que personnellement,
lui avait vécu aussi. Ouais, tout à fait.
Fait que ça, c'était un beau podcast.
Vraiment.
Moi, le podcast avec Thomas, puis Thomas Levac, puis Stéphanie, j'ai eu bien du fun.
C'était
là.
Le fun, ouais.
Ça, tu sais, dans les podcasts, mettons, on a moins fait peut-être un peu cette année des podcasts vraiment genre de qu'on rit tout le long, là. Tu sais, qu'on fait juste comme niaiser. Comme... Mais en même temps, on a dit plein d'affaires. On a plein de, tu sais, mettons, la discussion sur OnlyFans, c'était fait. Puis leur leur vision de tout ça, leur opinion là-dessus, c'était vraiment bon.
Ouais. Ils sont vraiment hot. Là, ouais. Ils sont vraiment cool.
Ouais, ils sont vraiment drôles. Kim Lizotte, c'était quelque chose.
Si vous voulez, en fait, là, on fait un best-of 2021, mais si vous voulez un commentaire sur les podcasts qu'on a fait, c'est pas mal ça qu'on a fait quand Kim est arrivé. On a juste parlé des podcasts qu'on a fait, puis rajouter son interprétation de plein d'affaires. C'était vraiment le fun. J'aurais aimé ça qu'on aille plus long, en fait. Avec
Et
comme arrivé un peu en retard, puis là, on avait quelque chose après, là, fait qu'on a
Elle reviendra, ben c'est ça, c'est comme, elle avait comme écouté plein de podcasts, puis accumulé plein de choses qu'elle a envie de dire, puis qu'il fallait que ça sorte, puis t'arrivais, puis ça, puis t'sais, comme énervée, vraiment drôle, là. En tout cas, fait que, avec Kim, c'était vraiment le fun, puis genre, c'est comme si elle voulait percer notre carapace, genre verser la... C'est comme elle nous a psychanalysé. Toi, je pense que toi, t'es comme ça.
Il y a de la psycho là-dedans.
Mais c'était bien drôle, vraiment cool.
Mm-hmm.
Après ça, j'avais... on a parlé tantôt, Éric Girard, qui est ministre des Finances, c'est quand même quelque chose. Avec Olivier, c'est tout le temps le fun. Avec
Bernard, c'est un chien, tout le temps le fun.
Fait que moi, ça fait le tour de mes plus beaux podcasts.
Ben man, écoute, puis c'était une autre belle année du Sans Fil podcast, man. C'était notre troisième année, un petit peu plus. Man, tout le temps, incroyable. On est chanceux en Christ. On est vraiment privilégiés, il faut se le rappeler.
Parce que
c'est vraiment le fun de faire toutes ces rencontres-là avec tous ces gens incroyables-là, puis d'avoir la tribune qui nous permet de un, les inviter, puis de deux, pouvoir rendre ce genre de discussion-là accessible aux gens.
Ouais.
Puis merci surtout à vous qui nous écoutez. Parce que sans vous autres, il va falloir que tu parles pour avoir la caméra sur toi.
Hey, merci à toi de nous écouter à la maison. On t'aime.
Parce que sans vous, il n'y aurait pas de sans filtre. Puis, that's it, man. Merci beaucoup. Bonne année. Puis, good job, Dom.
Bonne
rock.
Année. Puis, on rock. On va prendre une petite pause. Puis après ça, on repart.
On repart.
On repart 2022. Yeah. Oh, yeah.
C'était du contenu excellent.
Ah, c'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. Oh, yeah. Si vous voulez plus de contenu excellent comme ce que vous venez d'entendre, allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour 3$ par mois. C'est ça, 3$?
Oui, 3$ par mois.
3$ par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut dire que vous êtes les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts. Puis vous allez pouvoir avoir...
Une avance. Quand vous allez, tu sais, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur les autres.
Tu veux toujours avoir une avance sur les gens autour de toi. Ben, avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète.
Puis, en plus, parce que là, je sais que le podcast finit, vous voulez nous entendre jaser davantage, on fait des encore moins de filtres après chaque podcast. Fait que là, on vient de finir le tournée, le podcast, on va en jaser, on va chiller. Nicole, il est plus là maintenant, tu sais, encore moins de filtres, il travaille à place. De temps en temps, il est là, mais on jase, on parle de la conversation qu'on vient d'avoir, mais ça, si vous voulez avoir accès à ça, ben, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon. Fait qu'il faut s'abonner.
Abonnez-vous.